Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Condamné victime, un dialogue possible, une série de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a la question du pardon et le vide qui s'ouvre après un procès. Ce moment où l'on se demande comment vivre après, avec les idées noires, la peur, l'incompréhension et les questions sans réponse. Il y a aussi l'espoir de trouver une piste pour aller au-delà de la logique punitive, cette idée de réparer les torts et de renouer avec des pratiques de compensation, des rituels, voire même le souvenir de Saint-Louis sous son chêne. Mais après les idéaux, il y a le réel, le crime, la douleur, la terreur et l'impulsion qui soudain a laissé la place à des actes qui nous dépassent, à cette inconcevable irruption de la violence qui pourtant fait partie de la vie, comme en fait partie le désir de se venger, et tout ça forcément n'incite pas à se parler. Alors pour commencer, les personnages. Des bourreaux qu'on ne peut emprisonner, Desmond Tutu, un voleur qui regrette, un volé qui a tout perdu, admiratif de l'habileté de son voleur, des associatifs convaincus, une psychologue furieuse et inquiète pour les victimes, une chercheuse qui n'affirme rien et une criminologue. Ensuite le décor, des tribunaux en plein air, un génocide entre voisins, l'Afrique du Sud, un foutoir idéologique, une pointe d'évangélisation, des démarches entre thérapie et pardon, un tribunal des larmes, pas de politique, la Belgique, un face-à-face et une démarche qui met peut-être en danger. Aujourd'hui, 4e épisode, on est au Rwanda.
Rwanda si sa gihugu cyacu
Ushimisozi ibiyaga n'ibirunga
ngo kiduhetse gahora
n'ishya
reka tukurate tukuvuga ibigwi wowe utubumbiye hamwe twese abanyarwanda
nuko watubyaye Verba sugira singizwa iteka Ora imana murage mwiza
Ivyo tugukesha ntibishikirwa Umuco dusangiye uratuhabwa Ururimi rwacu rukaduhuza Ubwenge umutima amaboko yacu nibigukungahaze bikwiye Wishyire wizane muri byose Urangwe n'ishyaka utere imbere Uhamye umubano n'amahanga yose Maze ijabo ryawe riguhe ijambo
Ni oubli, ni pardon. Par Johanna Bedeau et Angélique Thibault.
C'est une jeune femme, Irene Villa, qui a été victime en 1991 d'un attentat de l'ETA. Elle était âgée de 12 ans. Elle a perdu ses deux jambes. Sa mère, qui était avec elle, a perdu un bras et un pied. Sa mère rentre dans la chambre de l'hôpital et lui dit « Irene, nous avons maintenant deux options. Nous ancrer dans ce qui nous est arrivé et gâcher le reste de notre vie ou pardonner. » Et on lui dit « Mais est-ce que vous avez réellement pardonné les terroristes responsables ?» Et elle répond « Oui, complètement. » Pardonner, c'est rompre le lien avec celui qui t'a fait du mal. Sinon, tu restes lié à lui. Si tu pardonnes, tu te libères de cette personne pour toujours. Le lien disparaît et tu es libre, totalement libre.
Mais après, c'est difficile. Malheureusement, on ne peut pas changer le passé. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on peut pas réparer.
Pardonner ne signifie pas nécessairement se réconcilier avec la personne qui t'a fait du mal. Pardonner, c'est calmer la colère intérieure.
Pierrette Poncella.
C'est éliminer la soif de vengeance. Pardonner n'est pas oublier. C'est-à-dire que les faits sont là. Ce n'est pas nier la réalité. Non, c'est retrouver une paix intérieure. Éteindre la colère, c'est-à-dire que c'est une libération. Alors je pense qu'on ne peut pas exiger le pardon de la victime. C'est un acte de sa liberté. Mais de même, l'on ne peut pas exiger de l'auteur d'une infraction la formulation d'un regret ou d'un remords. C'est sa liberté. Et cela ne veut pas dire qu'il ne regrette pas ou qu'il n'a pas de remords. Il doit lui aussi rompre le lien intérieur avec ce passé, et notamment avec la victime.
Le président dit, mes chers amis, il faut que vous sachiez que pour qu'on institue les gachachas, c'était pour vous demander de dire toute la vérité. C'est la seule solution pour nous réconcilier avec les gens. Tout le monde sait ce qui s'est passé ici et toutes les conséquences qui s'en sont suivies. Beaucoup de personnes sont mortes, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a plein de biens qui sont maintenant détruits. Et même nos cœurs ont été brisés parce qu'on s'est séparés. Mais alors, pour nous réconcilier, il faut qu'on donne une valeur à ce tribunal Gachacha. Le témoignage qui suit a été donné par Mamadi Pierre. Quand le génocide a commencé, quand on a entendu des coups de fusil à la paroisse, ma femme et ma sœur étaient à la paroisse. Mais après, elles sont rentrées à la maison. C'est alors que celui qui était conseiller du secteur les a amenés au secteur pour leur accorder des attestations. Il est parti avec elles. Elles ont fait 3 jours. Elles sont revenues, c'est Diamoguiza, Bujingo, Caliste, François, le fils de Luciné, qui les ont amenées. C'est alors que François a coupé le cou de ma femme et que François lui a fait tomber dans un trou de toilette qui était à côté. Quand on était en train de reconnaître les cadavres, on a reconnu ma femme et ma sœur qui étaient encore dans le trou de la toilette. Elle était encore debout. On peut demander à François de se lever et de dire ce qu'il a fait. Quand je suis arrivée, c'est vrai que les personnes étaient en train d'être tuées. Là, on ment parce que quand on dit que c'est moi qui l'a mis dans un trou encore vivante, c'est pas moi parce que c'est Simba qui l'a tué avec un truc en fer. Caliste était là. Rugamba était là également, Antoine aussi, et ils ne m'ont pas vu la tuer. Il y avait plein d'autres personnes dont je ne me rappelle plus le nom. C'est mon ami
qui dit bien.
Mais ce qui nous fait mal, cet homme, on a trouvé un cahier chez lui, et ce cahier est encore là. Et il y avait une liste de personnes, et pour les personnes qui étaient mortes, il avait mis une croix, et pour les personnes qui n'étaient pas mortes, il avait mis une interrogation. Alors il faut qu'ils nous disent la vérité pour que nous puissions leur accorder le pardon.
Stéphane Parmentier.
Je crois que l'idée de pardon serait de dire, voilà, qu'on va clôturer les livres, on va tourner la page et on n'en parle plus. Hein.
Quand on parle de pardon, pour vous comme pour moi, on parle d'une relation religieuse. Le pardon, c'est d'abord quelque chose qui appartient à un corpus religieux.
C'est pas seulement la question de l'oubli, ça c'est autre chose. Hein. L'oubli, ça veut dire on n'en parle plus, mais on oublie vraiment.
Les toutes premières commissions de vérité, celles qui notamment ont été appelées du nom de justice transitionnelle, c'est dans les années 80.
Sandrine Lefranc.
Le principe commence d'être consacré dans les années 1990. Les premières déclarations du secrétaire général des Nations Unies, pour vous donner un repère, c'est dans les années 2000. La justice restaurative, c'est aussi quelque chose qui est postérieur à la chute du mur. Alors ça, tout démarre dans les années 70, dans l'inspiration, mais c'est, voilà, l'essor de la justice restaurative, c'est aussi très récent. La justice transitionnelle, c'est au fond la même idée, la même question que la justice restaurative, mais là, le contexte politique est plus clair. On est dans des contextes où la victime, alors d'abord, la victime hier était une subversive, donc on doit l'appeler victime, et c'est tout un enjeu. Hein, quand vous prenez le guérillero latino-américain et que vous devez persuader toute la société que c'est une victime, ça n'est pas une mince affaire. Donc la justice transitionnelle, c'est à la fois une politique qui dit, bon, on ne va pas pouvoir les poursuivre, les bourreaux. On ne va pas pouvoir les mettre en prison, on n'en a pas les moyens. Eux ont les moyens de nous faire un petit coup d'État. Par contre, on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va réinventer une forme de justice politique après le conflit, après la violence, qui va nous permettre de donner à celui-ci, ce guérillero, ce militant anti-apartheid sud-africain, le nom de victime. Il n'en veut pas toujours, mais peu importe, on va lui donner le nom de victime. Et on va multiplier les institutions qui vont réécrire l'histoire collective sur la base de ce principe de réparation. Donc la justice transitionnelle, elle a ce parallèle. Quand je dis que ça n'est pas un concept, c'est très simple. C'est que c'est, comme la justice restaurative, un label dont on va s'emparer, auquel on va donner une dignité académique qu'il ne mérite pas toujours. Dignité académique au sens où on va lui donner une portée scientifique. On va l'organiser, on va lui donner une cohérence, on va dire la justice transitionnelle, c'est une politique homogène, alors que ça n'est pas du tout le cas. On y met à la fois de l'amnistie et des mesures de réparation aux victimes. Donc c'est quelque chose de très contradictoire, avec une contradiction forte, puisqu'il s'agit d'un côté d'amnistier les bourreaux et de l'autre de rendre, de donner une reconnaissance et des réparations aux victimes. Donc il y a quelque chose qui est tendu. Mais le but, c'est effectivement de parler de politique sans parler politiquement. C'est-à-dire de parler du conflit en changeant les termes, de dire « ici, nous parlons un langage commun, un peu comme la justice restaurative. Ici, nous voulons oublier que vous étiez hier des ennemis politiques. Nous allons vous requalifier, nous allons tenter, c'est pas toujours une ambition assumée, mais tenter de créer un dialogue entre vous, et nous allons parler de politique, mais avec un langage moral. Nous allons parler de pardon, nous allons parler de réparation, nous allons aussi beaucoup parler de thérapie. » C'est-à-dire que les victimes, la victime a beau être la veuve ou la mère d'un militant anti-apartheid ou un militant de gauche latino-américaine disparu, on va lui demander d'être là dans son rôle de mère. On va lui demander de parler de son expérience de deuil, de parler de son traumatisme. On va lui demander de raconter son histoire en éludant la caractéristique politique et donc éminemment conflictuelle.
They arrived again at about 11 in the morning. Among those guests, there was a girl in a mini dress with three others.
I did the same with him. I slaughtered him. I slaughtered him like a goat.
De la politique, il y en a partout. Quand en Afrique du Sud, au sein de la commission de vérité et de réconciliation, on va chercher la belle idée de la justice restaurative. Quand Desmond Tutu, l'archevêque Desmond Tutu, qui est un type magnifique, qui sait parler, va chercher cette idée-là, il fait deux choses. Il fait une première chose, il sait qu'il fait de la politique. Il sait que l'institution qu'il préside est d'abord une institution qui est là parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Parce qu'on n'a pas les moyens de mettre les bourreaux en prison. parce qu'on n'a même pas les moyens de leur reprendre tout le pouvoir. Parce que, par exemple, on ne peut pas virer l'ensemble des fonctionnaires blancs sud-africains. Donc, il sait qu'il fait avec des contraintes politiques très lourdes. C'est un type très intelligent. Il fait avec ça, il le dit, il ne le cache pas. Et dans le même temps, il va chercher une belle idée, celle de la justice restaurative, pour faire en sorte que le travail de son institution ne s'arrête pas à ces contraintes politiques. Et dans une certaine mesure, il y arrive. Mais dans une certaine mesure seulement. Ça, c'est pour ce qui se passe au lendemain des crimes politiques. La justice restaurative, telle qu'on peut l'expérimenter en France, en Australie, aux États-Unis, c'est aussi de la politique. Mais c'est un petit peu différent. C'est de la politique au sens où ceux qui se sont enthousiasmés pour cette idée, ce sont des gens qui avaient des velléités politiques. La justice restaurative, c'est à la fois des idées de gauchistes et des idées de conservateurs. On y trouve des ennemis du libéralisme, on y trouve des communautariens qui en ont assez de ces sociétés individualistes, ces sociétés indifférenciées, qui veulent rétablir le sens de la communauté. Alors, pour nous, Français, c'est plutôt réactionnaire. Ailleurs, non. Mais pour nous, et de toute façon, partout, c'est de la politique. On y trouve aussi des gauchistes qui disent ras-le-bol de ces magistrats qui volent leur justice aux justiciables, aux délinquants, aux victimes et aux témoins, à tous. Ras-le-bol de cet État qui s'accapare ce qui nous appartient, c'est-à-dire la possibilité de réclamer, de se plaindre et de demander justice. Des gauchistes. Et on y trouve aussi pas mal de conservateurs. Et notamment dans ces mouvements religieux que j'évoque et qui, aux États-Unis, ont fait beaucoup pour faire entrer des formes de justice restaurative dans les prisons, on trouve beaucoup d'évangéliques. On trouve notamment des amis du conservatisme compassionnel, de la politique sociale compassionnelle de Bush. La justice restaurative, c'est tout ça. C'est un vaste foutoir. C'est un ensemble d'idéologies extrêmement disparates. Ça marche bien parce que l'idée est au fond assez bonne, mais il ne faut surtout pas oublier que quand on ouvre ses portes à la justice restaurative, c'est tout cela qu'on accueille, y compris les pratiques d'évangélisation.
Are able to treat me like an animal or like a human being, and that how you treated me depended on whether.
Dans les années 90, parce que cette commission avait été établie après donc la transition politique, et l'idée était à ce moment de trouver une solution pour que le passé soit connu par la population sud-africaine et par le monde entier d'ailleurs. Sans qu'il y ait des poursuites pénales. En fait, c'était une troisième voie, disons, entre une amnistie totale et de l'autre côté, d'une poursuite pénale totale, ou même partielle, mais des poursuites assez approfondies. On ne peut pas comparer l'Afrique du Sud, disons, quatre décennies d'apartheid, un système très dur et très ségrégué, en fait, avec le Chili, par exemple, ou l'Argentine, où il y avait une dictature, oui, c'est sûr, mais pendant beaucoup moins de temps. Donc, pour un pays comme l'Argentine ou le Chili ou l'Uruguay, ce serait en fait beaucoup plus facile de retourner au passé.
I wish this painting can come to me one day and tell me about how my son died.
What kind of man that uses a method like this one of the wet bag to people, to other human beings, repeatedly, and listening to those moans and cries and groans, and taking each of those people very near to their deaths. What kind of man are you? What kind of man is that?
Can we have a 5-minute adjournment?
C'est quelque chose qui ne peut pas avoir lieu. Il ne peut pas y avoir de justice réparatrice dans l'absolu. La réparation, aujourd'hui la réparation, c'est à la fois une norme internationale, ça commence tout juste, hein, mais il y a une activité assez frénétique, par exemple de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a produit des textes, ou de l'Assemblée générale des Nations unies qui produisent des textes disant que tous les États se doivent de réparer les conséquences de leurs crimes, dans la partie qui m'intéresse, mais des crimes aussi. Activité frénétique, de belles normes internationales et en même temps une absolue impossibilité pour les victimes. Vous n'obtiendrez jamais devant la justice qu'on vous rende ce qui vous a été pris. Vous n'obtiendrez par exemple jamais devant la justice qu'on vous libère de la peur qui est née au moment où vous avez été agressé. C'est aussi simple que ça. Alors, la justice restaurative, elle essaye de travailler ce paradoxe, d'en sortir quelque chose, de construire un équivalent de réparation en se passant, ou en tout cas sans compter seulement sur l'État. Quand on ouvre un espace public à la victime, on lui demande de s'approcher, on lui dit « la nation est reconnaissante à votre égard, vous avez sacrifié votre fils, par exemple, pour notre bien commun, nous vous remercions », l'expérience, elle est très clairement hypocrite. C'est-à-dire qu'on dit à cette victime « viens, parle, je te reconnais, je te célèbre, par contre, je vais te demander de tenir un langage très circonscrit. Je vais te poser des questions », c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, et pourtant c'est une institution qui est plutôt agréable à regarder à mains égards, mais très clairement les questions étaient essentiellement orientées vers l'aspect moral, le vécu traumatique. On demandait à la victime de tenir son rôle de victime. On lui demandait, et on l'incitait même en plaçant un psychologue qui caressait son corps derrière elle, on l'incitait à pleurer. La commission de vérité et de réconciliation sud-africaine, pour ses critiques, c'est le tribunal des larmes. C'est la commission Kleenex même. C'est-à-dire que c'est un dispositif qu'on emprunte au monde religieux et au monde thérapeutique parce que ça permet de différer le moment où on reparlera politique. C'est plutôt futé, mais ça n'est pas non plus la reconnaissance des victimes qu'on s'attend à y trouver. Au fond, si on regarde, c'est comme le devoir de mémoire, c'est comme les politiques de mémoire. C'est-à-dire que si les États finissent par converger vers un certain nombre de pratiques communes, si les organisations internationales s'emparent de ces principes communs, c'est à la fois parce que ça correspond à un état de nos pratiques, c'est-à-dire qu'au fond, le plus petit commun dénominateur, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui engage peu. C'est l'émotion qui permet de ne pas faire de politique. Et là, le paradoxe que je trouve fascinant, c'est que ces États-là mettent en avant un principe qui leur permet, à certains égards, de se désengager. Parce que la justice restaurative, et elle est parfois pensée par certains de ses promoteurs, comme un dispositif qui permet de minimiser le fardeau qui pèse sur la justice pénale. C'est aussi ça, hein, c'est aussi une affaire de politique au sens... avec un enjeu économique là-derrière. Donc la chose fascinante est là, c'est que En faisant de la justice restaurative ou de la justice transitionnelle des principes communs, on permet à des États d'adhérer à des principes qui vont les alléger, les décharger d'une partie de leurs responsabilités et entériner un regard largement partagé sur l'état du social, des victimes, de l'émotion, de la conception morale, un goût pour la thérapie généralisée. Tout cela se retrouve dans le fait qu'on endosse ces principes-là, alors même qu'on a des pratiques qui n'ont rien à voir.
C'est vrai qu'ici, c'est pas très gai pour sortir.
Quoi ?
Bah, vous appelez ça banlieue 13. Vous avez vu le film banlieue 13 ? Bah, c'est à peu près ça, ici. Après 6 heures du soir, vous évitez de sortir. Ah ouais, c'est très sympathique. Oui, mec. Ah, si je pouvais partir, je partirais. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Non, croyez-moi, je sais ce que je dis. Toutes les bandes et tout sont dans le coin, c'est horrible, horrible. Les béquières, ça tire à la cache les coffres dans les rues, vous allez sur la place le soir, ils s'entretuent. La seule fois où je suis sorti, j'étais boire un verre ici sur la place à Jemap. On me tape sur l'épaule, gentiment, je me retourne, deux pêches en pleine figure, lèvres ouvertes, l'œil... J'avais jamais vu ce type de ma vie, quoi. Bravo. Faut aimer. Et c'est comme ça tout le temps. C'est triste d'ailleurs. On dirait qu'ils ont mis tout le... Avant, moi je dis Jemap, ça devait être un asile de fous. On a retiré les murs et ils ont construit les maisons. Et Laurent Christian, 7012 Jemap. Moi je vendais des bijoux à ce moment-là par internet. Je collectionnais les montres en or avec diamants. Et un jour, quand j'ai su qu'elle était malade, j'ai dit on va tout vendre et on va encore profiter plus. Elle voulait avoir un rêve, c'était aller à Bora Bora. Et j'ai eu une réponse par internet et puis par téléphone. Et j'ai pris rendez-vous avec ce monsieur qui est arrivé ici très bien, costume, cravate, vraiment très présentable. Et il a commencé à parler avec moi et bon, il donnait des prix qui étaient raisonnables en plus. Et il a voulu être trop honnête, ce qu'il a fait. Il est venu même faire une photocopie de sa carte d'identité avec son vrai nom, son vrai prénom, l'adresse de sa maman et tout. Bon, tout s'est bien passé. Puis il est parti. très bien. Moi, j'étais à la banque avec les chèques. Évidemment, les chèques refusaient. C'était vraiment une belle arnaque. Mais on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Hein, parce qu'attention, lui, s'il connaissait, il était intelligent, quelque chose de pas possible. Et très présentable. Et moi, je voulais en finir. Et en fait, il avait envoyé, je sais pas vous le montrer, il avait envoyé une photo de lui par ordinateur avec des boîtes à bijoux et des bijoux ressemblants, mais apparemment des faux. Puis il y a eu les coups de fil avec sa maman aussi. Sa maman qui pleurait au téléphone, qu'est-ce que mon fils a encore fait? Oh, vous inquiétez pas, il va vous rendre l'argent. Enfin, c'était tout une magouille incroyable.
Maintenant, je lui dis tout. J'ai pas de potes, je suis quelqu'un avec, enfin, j'ai pas vraiment d'attache.
Ça a encore duré, on va dire presque un an, avant que j'ai eu la convocation du tribunal. Mais là, mon épouse était ici, sur son lit de mort, et j'ai jamais été porté partie civile, donc. Et puis, moi, je me suis dit en moi-même que c'était perdu, et puis je m'en fous. Excusez-moi, vu la perte de mon épouse, ça n'a plus d'importance. Et alors, j'ai reçu la lettre de la médiation pour prendre le rendez-vous, là, et c'est comme ça que ça a commencé avec médianté. Bien
sûr. Surtout ma mère, qui m'a dit, écoute, faudrait quand même penser à payer ces gens-là. Et j'ai envoyé un rapport à Madame Van Bingen, qui est venue directement me voir. Et puis ça a été... Ouais, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, parce qu'au début, j'étais réticent. Je me dis, attends, j'aurais pris leur argent, je me suis pris des années de prison, c'est bon, quoi, je vais pas en plus rembourser. Voilà, elle est venue, elle m'a dit qu'ils voulaient disperser ses cendres, les cendres de sa femme à Bora Bora. Je connais, j'ai déjà voyagé, je me suis dit 3500, à tout casser en ligne. Ok. Donc on est parti sur 3500, il n'a pas chipoté. Franchement, ça m'a fait super plaisir parce que je lui ai pris beaucoup plus que ça. 5 fois plus que ça, même 6 fois. Franchement, il y a des gens qu'on regrette de voler. C'est sûr et certain, il y a des gens qui ne méritent pas. Mais il y a des gens qui sont sur cette lignée et qu'on ne peut pas... Les personnes que j'ai volées, c'était des gens à qui ils avaient des Audemars Piguet, des diamants, des montres à 80 000 balles, 120 000 balles, et la plupart c'était des collectionneurs, quoi. Donc, je sais pas comment dire ça, mais tu collectionnes de l'argent, quoi. Lui, il savait pas trop sa situation, en fait. Quand j'ai débarqué là, je savais pas que c'était ça sa vie. Et lancer pour lancer, quand on voit tout ça sur la table, ben, on prend. Et après, on se pose des questions, après on a des regrets, après on se dit que non, en fait, c'était pas si bien que ça. Mais on se le dit pas directement, parce qu'il faut dire la vérité. Une fois qu'on rentre en prison, qu'on se prend autant d'années, il n'y a personne qui a des regrets ou quoi que ce soit. C'est un menteur, celui qui vous dit ça. Très, très gros menteur. Il n'y a pas de regrets quand tu rentres en prison, tu as la haine au début. Même si tu as volé tout, tu as la haine. Mais après, il faut le temps que ça redescende. Mais t'as moins de haine. Et donc là, médiante est venue, etc. Et monsieur Christian, il était même pas dans mes victimes. Il était même pas. Il était nulle part, le mec. Il m'a même pas poursuivi. Et c'est moi qui en ai fait part à madame Van Bingen parce que. Il m'a touché, le mec. Sincèrement, il m'a touché. Et ma mère aussi. Et quand elle l'a retrouvé, franchement, j'étais content. Mais ouais, ça fait. Je sais pas. On a un peu moins de. Comment exprimer ? On sent un peu moins mal, même si ce qu'on a fait, c'est le bordel, quoi. Donc voilà. Ça permet de réparer un tout petit peu.
Donc, dans ce dossier, c'est le détenu qui est donc à la prison de Nivelles qui a fait appel au service suite à des achats de bijoux, de montres. Et donc, il y a quand même eu un dommage d'une dizaine de milliers d'euros. Et il n'a rien réclamé financièrement. Il voulait absolument qu'on contacte cette victime-là parce que l'argent que la victime devait obtenir suite à cette transaction était pour partir avec son épouse qui souffrait d'un cancer, l'emmener en voyage à Bora Bora. Et comme la victime n'a pas eu cet argent, il n'a pas pu emmener son épouse. Et entre les faits et le procès, l'épouse est décédée, notamment au moment du procès, raison pour laquelle la victime n'a pas pu se constituer partie civile. Et là, le côté réparation symbolique était fort présent.
En détention, 80% des demandes viennent des auteurs. Même lorsque la demande vient de l'auteur, 60% des victimes y répondent positivement.
Antonio Buonatesta.
Ça veut dire que, et alors 60% des victimes pour des faits de viol, de meurtre, de séquestration, etc., si l'on veut initier des marches visibles d'auteur, c'est pas pour leur faire plaisir, quoi.
Moi, la première fois que je suis rentré en prison, c'était en 2009, le jour de la mort de Michael Jackson. J'ai fait des faits incroyables. Bref, j'ai pas trop envie d'en discuter, mais c'est les premiers faits que j'ai faits, et ils étaient hyper violents. Donc on a attaché les gens, c'était un truc pour une bijouterie, etc. Je me prends 5 ans, et par sursis, avec sursis. Je fais 2 mois et demi de prison, hop là, tout va bien. Je paye un avocat, tout va bien. Encore une fois, je rentre pour une centaine, 200 ou 250 cambriolages. Je fais même pas un jour de prison. La juge me voit, elle parle avec mon avocate, il me libère. Donc ici, voilà, c'est... À force d'accumuler, ben, voilà, c'est surtout ça. C'est l'accumulation qu'il ne faut pas faire en Belgique. Mais ouais, non, avant, je suis rentré 2 fois en prison, en 2009 et en 2012. Non, il ne fallait pas me parler de médiante ou quoi que ce soit. J'avais pas le temps, j'ai pas fait assez de prison. Et pour moi, j'étais intouchable, quoi. Mais une fois que tu te prends 13 ans et que tu prends les meilleurs avocats et que ça marche pas, ben, il faut redescendre sur terre et essayer de réparer ce qu'on a fait. Mais je pense que c'est avec l'âge, parce que j'ai 27 ans et que la première fois que je suis rentré en prison, j'en avais même pas 18 ans. L'argent, toujours l'argent.
On est en 98, donc c'est 2 ans après l'affaire Dutroux. Et à ce moment-là, il y a tout un bouillonnement au sein du ministère de la Justice de trouver des voies d'une meilleure réponse aux justiciables, tant aux auteurs qu'aux victimes. C'est là qu'on a émergé toute une série de dispositions, de mesures en faveur des victimes, meilleure accessibilité aux dossiers, meilleure information sur le suivi du dossier, la possibilité d'entendre leur voix dans des conditions de libération conditionnelle pour éviter... Enfin, le fantasme était d'éviter qu'un pédophile en libération conditionnelle vienne habiter dans le même quartier de la victime. Donc toute cette réflexion est née à ce moment-là. Et nous, c'est un peu dans ce sillage-là qu'il y a une volonté du ministère de la Justice de dire que la médiation pénale a un champ d'intervention limité en matière de médiation. Lançons 2 projets pilotes pour explorer les possibilités de développer cette médiation, quelle que soit la gravité des faits.
Vous n'avez pas voulu le rencontrer ?
Non, je préfère pas. Je connais ma réaction.
Ce serait quoi votre réaction ?
Vaut mieux pas trop en parler.
Mais d'être en colère ?
Oui, certes, ouais. Pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ce qu'il a fait vis-à-vis de mon épouse. Donc, je crois qu'on aurait bien dû me retenir. Donc, je ne suis pas quelqu'un de facile.
Et vous n'aviez pas envie d'en profiter pour lui expliquer tout ça ? Vous avez déjà été étonné de...
Non, parce que je suis quelqu'un d'assez agressif. J'ai quand même des antécédents aussi derrière moi et je ne... Non. Je préfère ne pas le voir. Pour arriver à quoi ? Qu'est-ce que j'aurais de plus ? C'est déjà bien qu'il a fait un effort de ce côté-là. Le plus bête des deux, c'était moi, c'est de se faire avoir. Bon, lui, c'est le plus intelligent des deux, c'est qu'il a bien fait son coup. Et très bien fait. Vous savez, j'ai aussi fait des bêtises dans ma vie. Bon, ben, on a tous fait. Il est encore jeune. Hein. Est-ce qu'il va recommencer ou pas, ça, je sais jamais. Je vous dis, des comme ça, j'en ai rarement vu. Je sais pas, il faut voir ce qu'il a pris sa leçon ou pas. Moi, je sais pas, dans mon cas, vu les bêtises que j'ai fait dans le temps, je ne sais pas si ça aurait marché. Je l'aurais plutôt fait pour être honnête, pour être bien vu, vous avez du juge, tout ça. Mais de là, mes pensées seraient restées les mêmes. C'était de l'argent vite gagné. Donc, maintenant, il faut voir comment lui va réagir. Il n'y a rien à faire. On verra. L'avenir me le dira.
Est-ce que vous pensez que c'est fait pour pardonner une médiation ?
S'il y a moyen, oui, mais un comme ça, non.
Vous pensez qu'on peut pardonner ?
Oui. Je ne peux pas dire que j'ai encore quelque chose contre lui. Il fait son effort d'un côté, même s'il n'est pas honnête. Même s'il pense pas ce qu'il dit, bah, il fait l'effort. Lui, je ne l'en voudrais plus, par exemple. Bah, il y a toujours moyen de pardonner, ouais, pourquoi pas. Et puis moi, je l'ai trouvé tellement intelligent que je ne peux pas lui reprocher quelque chose. C'est vrai. Parce que j'ai même dit à mon épouse, après, je dis, mais ça, c'est quand même un type qui devrait travailler en bijouterie, parce que peut-être plus doué que lui, c'est pas possible. En plus d'une politesse, pas d'agression, non, c'est vrai, Il était doué, il a bien fait ça. J'aurais pu le faire étant jeune, aussi bien que lui. Mais bon.
Oui, bonjour madame, Catherine Van Bellingen du service Médiante. On s'est entendu l'année dernière par rapport au fait dont votre mari a été victime. Je ne sais pas s'il est disponible.
À partir du moment où on considère que la médiation peut offrir à la victime la possibilité d'exprimer des sentiments très forts, de poser des questions, etc., c'est valable dans tous les faits. Et donc, la confirmation expérimentale que c'est recevable dans tous les faits a permis au législateur de concevoir une loi sur la médiation qui permet que celle-ci soit possible à tous les stades de la procédure.
Donc, et
la loi de 2005, accessible, possible à tous les stades de la procédure et accessible directement aux parties, sans aucune restriction en termes de type de fait.
Ah, il n'est pas là pour le moment. Mais écoutez, est-ce que dans l'après-midi, je pourrais à nouveau le joindre ou demain, je ne sais pas quand il sera joignable.
Catherine Van Bellingen, je travaille chez Médiante depuis 9 ans maintenant. Je commençais à Bruxelles et puis maintenant je suis sur l'arrondissement de Nivelles.
En partant de la question concrète, comment ça se passe, et Catherine l'a expliqué, il y a un auteur qui nous demande, etc., une victime saisit notre service. Et ça, c'est un élément essentiel du dispositif belge, qui est que la médiation est directement accessible aux parties elles-mêmes, sans passer par la décision d'un magistrat. Et c'est là un peu la particularité de l'expérience belge. On a parlé de projet pilote qui a démarré en 98 et qui a débouché sur une loi en 2005, donc 7 ans après. Pendant toute cette période, on a pu confirmer la faisabilité de ce dialogue, quelle que soit la gravité des faits.
Ok, ben je réessaye peut-être fin d'après-midi alors.
Notre service reçoit toutes les demandes. Toutes les demandes sont recevables. Ça sera après à l'autre partie, à la victime ou à l'auteur, parce qu'on peut parfois écrire. On peut recevoir la demande d'une victime qui souhaite entrer en contact avec l'auteur. La majorité, c'est les auteurs qui demandent. Enfin, nous, on ne décide pas de ne pas accepter une médiation. S'ils sont ouverts à la discussion, tout est recevable, oui, quel que soit le fait.
Alors, on a pour habitude de dire, pour qu'une médiation soit possible, il faut qu'on fasse une étude, un screening approfondi de la motivation de l'auteur. Est-ce qu'il est sincère, etc., etc. Or, on a démontré que la sincérité de l'auteur n'était pas une garantie d'intérêt pour la victime. Un auteur qui est sincère, mais qui ne se souvient plus de rien, et que la victime a des questions à poser, la victime n'a aucun intérêt à la démarche. Un auteur qui est moins empathique, qui fait ça, voilà, qui se rend vaguement disponible aux victimes, et qui a essentiellement en tête, voilà, c'est la condition de réinsertion, et qui, donc on peut se dire, celui-là n'est pas dans les conditions parce qu'il n'a pas suffisamment pris conscience, etc. Mais si on a une victime qui, par rapport à cet auteur-là, a envie de lui exprimer des choses très violentes, elle n'en a cure de savoir s'il est empathique ou pas. Une victime qui a besoin d'argent, elle préférait quelqu'un qui ne soit pas très empathique et d'argent que quelqu'un très repenti, mais qui n'a pas le sou. On a 70% de médiations qui se mettent en place par rapport au nombre de demandes globales, une partie ou de l'autre. Et dans ce pourcentage de médiation qui se mettent en place, on est entre 15 et 20% de rencontres directes, face à face. C'est-à-dire, plus ou moins 80% se font sans qu'il y ait une rencontre face à face. Et le fait qu'on se limite parfois des médiations indirectes est lié au fait justement qu'il n'y a pas ce besoin d'une rencontre émotionnellement forte où la victime a besoin d'identifier la sincérité de l'auteur, de le regarder dans les yeux, etc., etc. La plus classique, c'est une négociation d'indemnisation.
Je m'appelle Noémie Micoulet, je suis chargée de mission au sein de l'Institut français pour la justice restaurative. Mes missions actuellement, c'est de faire de la formation des professionnels qui travaillent auprès d'un public justice. Et j'ai animé les premières rencontres condamnées victimes en milieu ouvert. C'était une première. Ça a fonctionné, puis maintenant, il y en a plein.
Aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore d'expérimentation en France ?
Moi, j'aime plus parler d'expérimentation. Parce que ça fait 3 ans et demi que je travaille sur la justice restaurative. Et on a essuyé les plâtres. On a essuyé les plâtres avec les RDV de Poissy. On a appris. On a appris avec les RDV de Poissy, on a appris avec les rencontres condamnées victimes. On apprend avec les médiations restauratives. Et puis on transmet. les demandes qui sont dans les médiations restauratives sont spécifiques aux personnes et sont spécifiques aux actes qui ont été posés.
Qu'est-ce que là vous mettez en place aujourd'hui, Noémie Micoulet ?
Alors, actuellement, je prépare une médiation restaurative entre une personne victime et une personne auteur pour des faits un crime grave qui s'est produit il y a 30 ans auparavant. Cette médiation restaurative, elle a été le fruit de la demande de la personne victime pour rencontrer l'auteur.
C'est-à-dire que cette personne n'a pas eu les réponses, assez de réponses en tout cas, pour se reconstruire ?
Alors, je dirais pas que les personnes se reconstruisent pas. Les personnes se reconstruisent et comme elles peuvent, et puis surtout c'est que je peux pas dire qu'elles se reconstruisent pas. En revanche, il y a des questions qui perdurent et qui ont besoin d'être posées. C'est cet espace qui leur permet d'avoir lieu.
Comment réagit l'auteur qui est contacté 30 ans après ?
Ça dépend à chaque fois. Là, pour le coup, l'auteur est d'accord. Et il attend depuis 30 ans aussi cette demande-là.
J'ai une femme d'information, bonjour.
Donc ça, c'est quand vous avez 16 ans. Hein. Donc il commence par des violences verbales. Pour vous contraindre, hein, finalement, à cet acte sexuel que vous ne désirez pas.
D'accord. D'accord.
Qu'est-ce que c'était ces violences verbales ? C'était quoi les mots dont vous vous souvenez ? Si tu commences à crier, je te jette par la fenêtre. Mais bien sûr que ça vous a mis en état de terreur. Bah oui, puis là, c'était pas de la sexualité, hein, c'était de la violence.
Si on veut avoir un échange réparateur équitable entre un auteur et la victime, eh bien, on doit surtout prêter attention aux besoins de la victime. Évaluer dans quelle mesure la victime trouve un intérêt dans la démarche. Ce n'est pas uniquement dans le but de donner exclusivement plus de pouvoir à la victime, mais pour rééquilibrer. On a coutume de considérer que l'auteur pourrait faire ça dans une volonté d'instrumentalisation de la victime. Eh bien, donnons aussi à la victime la possibilité, dans son intérêt, d'instrumentaliser l'auteur, entre guillemets.
Muriel Salmona, en ce moment, on parle beaucoup de justice restaurative. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, la justice restaurative ?
Alors, moi, ça me fait bondir, hein, parce que je pense que parler de justice restaurative actuellement, alors que la justice est très très loin de faire tout le travail qu'elle devrait faire, enfin que l'immense majorité des victimes n'ont pas accès à la justice, moi ça me paraît fou qu'on puisse évoquer une situation où on va demander aux victimes, en quelque sorte, de se confronter aux agresseurs en dehors d'un procès, alors que l'impact traumatique n'est pas pris en charge dans la société actuellement. Ça me paraît fou. Alors, pour remettre les choses à la pendule à l'heure, avoir été victime de violences particulièrement dans l'enfance, c'est le déterminant principal de la santé, même 50 ans après. Avoir été victime de violences dans l'enfance, particulièrement des violences sexuelles, etc., c'est la première cause de mort précoce, la première cause de tentative de suicide, la première cause de dépression, la première cause de conduite addictive. L'impact sur la santé est majeur. Déjà, on demande aux victimes de faire en sorte de pas faire de vagues, de pas bousiller leur famille. Aussitôt qu'elles commencent à dire qu'il y a l'oncle qui a fait ceci, le père qui a fait cela, c'est toute une histoire. Quand on dit, quand les personnes parlent, oui, bah il y a un prêtre qui m'a agressé, etc. Alors là, on met en cause, on va détruire l'Église. Enfin, faut voir ce qu'on entend quand même. C'est si on dit que Polanski ceci, etc. Oui, mais c'est un grand réalisateur, donc on n'a pas le droit d'y toucher, etc. C'est déjà ça la société, c'est la culture du viol. C'est la victime, déjà, elle doit prendre sur elle, et c'est à elle de se réparer toute seule, c'est à elle de survivre toute seule, et c'est à elle de pas faire de vagues. Et là, on va lui demander de réparer un agresseur. Enfin, de participer à la restauration de l'agresseur. Non, mais là, c'est du délire. C'est pas à elle de faire ça. C'est à la société de le faire. Et c'est la société qui a pas fait son boulot depuis très longtemps. Depuis l'enfance de cet agresseur-là, personne n'a fait son boulot. Et puis, surtout, on est dans une société où on ne les soigne pas. Or, c'est ça qui va les mettre le plus en danger. Le premier facteur de risque pour une personne de subir des violences, c'est d'en avoir déjà subi.
Donc on est dans cette situation-là et on joue à l'apprenti sorcier. Mais c'est fou. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire de fondamental et d'absolument nécessaire. Elles ne le savent pas forcément, c'est nous qui le savons. C'est nous qui sommes médecins, c'est nous qui savons ce qui se passe dans le cerveau. C'est à nous qu'il faut demander si c'est possible.
Alors,
ou pas.
Alors attendez, on va prendre les choses étape par étape, Myriam.
C'est une justice restaurative.
Parce que vous le savez, hein, c'est important que vous puissiez prendre les problèmes et puis les.
Quelqu'un
les
qui est traumatisé, il est dissocié
pour
survivre. Être dissocié pour survivre, c'est-à-dire qu'on est anesthésié émotionnellement. C'est des personnes qui vont avoir une tolérance à de douleurs importantes, beaucoup plus importantes que dans la population générale. C'est pour ça que les femmes qui subissent des violences extrêmes, pourquoi elles restent 40 ans avec leur conjoint violent, parce qu'elles sont totalement dissociées, totalement anesthésiées. Elles peuvent avoir l'impression de pouvoir supporter ça, mais c'est pas pour autant que ça va pas les traumatiser. C'est traumatisant. Alors effectivement, ce qui est terrible, c'est que ça peut sembler marcher. Tout ça, ça passe par la dissociation. C'est-à-dire que si vous êtes complètement angoissé par quelque chose, si vous avez un allumage de mémoire traumatique, on vous donne des neuroleptiques à haute dose, on vous donne une grande baffe, on vous hurle dessus, on vous met en danger, je sais pas, on vous suspend au-dessus du vide, ben ça va. C'est-à-dire que ça fait disjoncter le cerveau et ça dissocie. C'est ce que font les victimes pour échapper à la mémoire traumatique. Hein, j'avais une petite jeune, elle se mettait sur le rebord de la fenêtre avec un Walkman et elle se balançait. Ça allait après. C'est les scarifications, toutes les mises en danger. Du coup, mettre une victime face à un agresseur, c'est la mettre en danger. Donc elle peut dire « je vais mieux depuis que j'ai vu cet agresseur ». Sauf que c'est faux. Elle peut avoir l'impression d'avoir été apaisée parce qu'elle a vu l'agresseur. La meilleure solution, quand même, me paraît être d'améliorer ce qui dysfonctionne. C'est-à-dire que si les procès sont aussi maltraitants, ont un impact aussi grave sur les victimes, c'est qu'il faut réformer les procédures judiciaires.
Sandrine Lefranc, est-ce que c'est l'état de la pénalité moderne qui fait qu'on revient, à ça aujourd'hui? La justice restaurative là, s'introduit en France petit à petit, on n'est plus dans l'expérimentation, il y a énormément de professionnels qui sont formés, on parle de 600 là, professionnels qui ont été formés ces deux dernières années, mais surtout, on n'est plus dans l'expérimentation. Il y a une trentaine de rencontres qui sont prévues là en 2018, c'est assez conséquent.
Alors, ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'au fond, on en a toujours parlé, hein, la justice restaurative en France, ça s'appelait médiation, il fut un temps. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes pratiques, et notamment, ce sont des pratiques qui sont moins collectives. Mais néanmoins, ça a toujours été là. Et pourquoi ça a toujours été là ?
La médiation pénale. Évidemment.
La médiation pénale, oui. C'est-à-dire toute cette idée, alors que d'abord le juge est débordé, puisqu'il n'y a plus de budget de la justice, ça pose problème. Donc le juge est débordé. Et par ailleurs, le métier du juge n'est pas de parler aux victimes, n'est pas d'accueillir et de guérir sur un plan psychologique les victimes. Donc on a toujours su qu'il y avait des besoins de complément de ce point de vue. La médiation, c'était déjà ce problème-là. Mais très clairement, si ça se développe, c'est aussi parce que ça ne marche pas. Le système pénal, la justice pénale, et on le sait depuis des décennies, et même on le sait, à mon avis, les inventeurs du système pénal et de la prison le savaient déjà. Il suffit de relire Foucault, surveiller, punir, et on le sait. Le choix de la pénalité, c'est toujours un choix par défaut, un choix imparfait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut difficilement justifier parfaitement le fait d'incarcérer une personne, ou même le principe de la peine, quelle que soit la forme qu'il prend, on sait que c'est quelque chose qui est bancal dans l'absolu. Ça, on le sait sur le principe. Et par ailleurs, on a maintenant aujourd'hui pléthore d'exemples pour montrer que les effets concrets, c'est-à-dire les effets sur les hommes, sur ceux qui ont été incarcérés, sont des effets qui sont très très loin de l'amélioration morale ou la réforme que l'on espérait. Donc, au fond, je comprends très bien qu'on s'empare avec enthousiasme de ce principe-là, qui en plus a avec lui la force de venir des États-Unis, d'avoir été adopté de par le monde, d'agréger des expériences qui sont à la fois des expériences protestantes américaines ou d'aborigènes australiens. Ça a un côté absolument fascinant, cet univers-là. Donc je comprends qu'on se précipite là-dessus parce que ça répond à de vraies questions. Est-ce que ça y répond bien? Je ne sais pas, on verra. Mais ça répond à une véritable imperfection structurelle et concrète du système pénal français et partout ailleurs.
Si,
C'est qu'on utilise un petit peu ce temps-là. Alors, mais j'aimerais quand même bien que d'ores et déjà, on essaye de se dire qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces rencontres et surtout qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Où est-ce qu'on a envie d'aller avec, qu'est-ce que ça a pu apporter et où est-ce qu'on a envie, voilà.
Ce qu'on se souhaite pour l'avenir après ces rencontres.
En gros, quels sont vos projets à partir d'aujourd'hui, en lien ou pas avec cette ERDV ?
Voilà. Bah, tout a été presque dit, en fait. Hein. On a tous envie d'avancer. Moi aussi, donc. Et les ERDV, quand on me les a proposés... Je comprenais pas bien ce que ça pouvait m'apporter ou pas. Mais je savais que ça pouvait pas être pire que ce que je vivais, en fait. Donc je me suis lancée dedans sans chercher à comprendre. Alors les gens me disaient « Ah bon, c'est quoi ?» Je savais pas trop expliquer. « Ah bah je suis à mon rendez-vous. » Enfin, vraiment pas de... Le premier jour où je suis venue, j'étais très tendue. Très, très, très tendue. Je m'attendais pas à vous rencontrer, je m'attendais pas à ce qu'on puisse en dire autant sur nous, à des inconnus ou enfin comme ça. Je me demandais ce que je faisais là en fait. Tout était pesant quoi. Mais j'avais envie d'être là. Et puis au fur et à mesure des RDV, ben, j'ai réussi quelque part à m'épanouir quand même. Je voulais partir de la région parisienne. Et moi, je vois toute ma famille dans le sud. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui... J'ai envie d'avancer, en fait. Et je vous le souhaite aussi. Hein. Je vois aussi que vous avez avancé au fur et à mesure de ces rencontres. Et j'espère vraiment que vous arriverez à vivre avec tout ça et à sortir, peut-être comme vous dites, la tête haute. Parce que je pensais pas pouvoir dire ça un jour, hein. Vraiment. Et je pensais pas en fait que c'était possible. Je pensais que vous seriez comme des fauves, enfin pas comme des fauves, mais comme tu disais, c'est les mêmes vies qu'on aurait pu vivre. Enfin, vous êtes monsieur tout le monde, quoi. Avec un jour quelque chose qui a disjoncté, donc voilà.
Condamné victime, un dialogue possible. Ni oubli, ni pardon. Avec Sandrine Lefranc, Stéphane Parmentier, Noémie Micoulet, Pierrette Poncella, Antonio Bonatesta, Catherine Van Bellingen, Reda, Christian, Stéphanie et Muriel Salmona. Merci à Lina pour les archives. Merci à l'administration pénitentiaire et à toute l'équipe de la centrale de Poissy, l'IFJR, Médiante, Isée Productions, France Victime et Laurent Benahim. Prise de son Jean-Marie Porchet, mixage Éric Boisset. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Angélique Thibault pour la série documentaire.
Victime, avocat, repenti, coupable, rescapé, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour tenter de faire le tri, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la médiation ou nous réécouter à la centrale, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et la semaine prochaine, nous irons explorer le logement quand il est subi. Et pendant 2 semaines, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur, notre partenaire, le film de Claudine Bory, Monsieur contre Madame. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.